Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radiographite, Graphite.net et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibé.blogspot.com.
E invece questo personaggio, nonostante tutto, è così poco particolare che in 18 anni non ha mai dato nessun motivo di sospetto. La normalità è il suo nascondiglio. Eppure in tanti lo conoscono. E forse qualcuno sa. E tace.
Au sommaire aujourd'hui, une spéciale Giallo avec l'ami David Didlot, en invité vedette. Bonjour David.
Bonjour Jérôme, bonjour.
Alors avec toi, nous allons aborder aujourd'hui ton dernier ouvrage, Firenze Rossa, disponible dans la collection Carnage chez Zone 52 Éditions. Le documentaire 50 nuances de jaune, dans lequel tu interviens longuement, puisque tu es le seul intervenant du documentaire en fait. Documentaire que l'on trouve en bonus du film Il Gatto d'Agli Occhi di Giada d'Antonio Bido, film édité par Uncut Movies sur lequel nous allons également revenir bien sûr. Et puis il y a aussi des giallo là qui sortent en ce moment, L'œil du labyrinthe de Mario Caiano, La mort caresse à minuit de Luciano Ercoli. On parlera un petit peu aussi de ces films là dans cette émission entièrement consacrée au genre qui nous intéresse, le cinéma jaune. L'équipe de Culture Prohibée remercie Kevin Boissezon, Patrice Carmona, Jérémy Grima, Thierry Lopez et Romuald Fallo pour leur aide sur cette émission. Rentrons dans le vif du sujet, hein, c'est le cas de le dire, mon cher David, avec ton nouveau roman, ton deuxième roman. Alors, si tu ne signes pas sous un pseudonyme, le précédent était signé sous le pseudonyme Talion, hein, le précédent ouvrage Sanction qui ouvrait la collection Carnage. Et là, c'est très différent, c'est un ouvrage très très différent, qui prend place dans la ville de Florence, hein, Firenze Rossa, où sévit un tueur adepte de l'arme blanche, tueur qui sévit dans les milieux interlopes comme ça, où se côtoient toutes sortes de pratiques sexuelles que la bonne société réprouve. Alors c'est un giallo, hein, c'est un véritable giallo littéraire. Moi je dirais même plus que c'est un crade giallo littéraire, si l'on peut, mon cher David.
Alors écoute Jérôme, oui, bah, je crois que tu peux le dire, hein, c'est un petit peu comme ça, enfin en tout cas c'est avec cet objectif que je l'ai écrit. En fait, si tu veux, mon objectif était en fait d'illustrer une expression qui me tient un peu à cœur, enfin en tout cas une idée que j'ai depuis pas mal de temps en tête, c'est que la ville de Florence, parce que c'est en fait l'héroïne du roman, c'est la ville elle-même en fait, hein. Et si tu veux, c'est une ville un petit peu oxymore, quoi, hein. C'est-à-dire que c'est une ville d'une beauté époustouflante, d'un point de vue artistique, architectural, quand on est à Florence, on étouffe presque, si tu veux, devant tant de beauté et de majesté, et d'art et d'histoire, et en même temps, si tu veux, je voulais mêler ça, je voulais que dans ce cadre, eh bien, se produisent des événements absolument abominables, que ce soit d'un point de vue criminel ou d'un point de vue sexuel. Je voulais en fait illustrer l'expression Florence ville oxymore. Dans le roman, tu parles de Diallo crade. Diallo, parce qu'il y a eu une enquête policière, effectivement. Il y a une espèce de wodounite, quoi. Hein, on ne sait pas qui a tué jusqu'à un certain moment. Et puis, crade, parce que, on est quand même dans la collection Carnage et le cahier des charges, même implicite, si tu veut que, on pousse le bouchon assez loin, quoi. Donc, voilà pourquoi il y a des débordements aussi bien pornographiques que sanglants. D'autre part, si tu veux, ton expression convient bien parce que moi, mon deuxième objectif, si tu veux, c'était de rendre hommage en quelque sorte, en tout cas de m'inspirer de ces dialogues, fin de série, si tu veux. Alors, tu vois, du genre un petit peu Delito Carnale de Cesare Canevari, Giallo à Venezia également, La Sœur d'Ursula. Enfin, tu vois, tous ces dialogues un peu fin de série, un peu fin de race. Playmotel aussi, hein, de Mario Gariazzo. Et donc, il fallait toujours plus de sang, toujours plus de sexe surtout. Et mon intrigue se situant donc en 1985, je trouvais, si tu veux, que c'était assez cohérent, quoi. Voilà. Et donc c'est aussi un hommage à ces giallos complètement oubliés, en tout cas complètement dépréciés, sous-estimés, mésestimés par rapport aux grands titres, tu vois, du genre auquel on se réfère tout le temps. Moi, quand j'ai écrit ce roman, si tu veux, j'avais pas en tête Argento, hein, tu vois, ni même Sergio Martino, enfin, tu vois, des grands noms. J'avais plutôt ces petits giallos, tu vois, assez sales, hein, assez crades, comme tu disais, qui m'ont largement inspiré, quoi. Voilà.
Alors, après, Cesare Canevari reste quand même un réalisateur qui pour moi est un réalisateur bis méconnu, mais qui est très très intéressant. Et d'ailleurs, le crade de Giallo, hein, cette ramification du Giallo qui arrive, comme tu l'as dit, en fin de règne du Giallo, enfin vraiment là on est vraiment loin fin de règne, ton bouquin c'est 85, ça fait 10 ans qu'ont été tournés les Frissons de l'Angoisse, enfin oui, que sont sortis les Frissons de l'Angoisse, connaît quand même aussi un grand film, c'est L'Éventreur de New York de Fulci, de Lucio Fulci, qui est le grand crade de Giallo quand même.
C'est juste. Non, mais tu as tout à fait raison. Je veux dire, le sous-genre, enfin, en tout cas, cette période, si tu veux, connaît aussi ses bons films. Hein, et Les Venteurs de New York, évidemment, est probablement le meilleur de cette espèce de tiroir, tu vois, du giallo un peu trash, quoi, bien évidemment. Mais parce que il y a la maestria de Lucio Fulci, il y a des thèmes récurrents, il y a sa mise en scène, etc. Il n'empêche que, si tu veux, dans Les Ventreurs de New York, les meurtres, si tu veux, les meurtres eux-mêmes, et puis même le cadre, quoi, tu vois, l'ambiance, elle est très sexuelle, elle est très érotique, elle est même pornographique, je parle de l'ambiance, hein, la ville a un véritable enfer, et puis les meurtres sont d'une violence extrême, quoi, tu vois, et donc, j'avais aussi, bien sûr, Les Ventreurs de New York en tête, bien sûr, et j'avais évidemment, mais je pense que tu voulais y revenir, et j'avais évidemment en sous-texte toute l'affaire du monstre de Florence, bien évidemment.
Et évidemment, c'était le sujet de ma prochaine question, parce que ce livre, La Firenze Rossa, c'est vraiment la poursuite de ton travail. Tu avais auto-édité un livre sur le monstre de Florence, qui s'appelle Le Monstre de Florence d'ailleurs, et où tu avais énormément travaillé le sujet. Et ce roman, on est le prolongement logique en quelque sorte.
Oui, carrément. Non, mais écoute, c'est une affaire. Alors là, pour le coup, tu vois, c'est une affaire, moi, qui me fascine, d'ailleurs, toujours tellement, si tu veux, qui me fascine à un point. Enfin, c'est une affaire, si tu veux, comme je le dis assez souvent, qui était vraiment à l'intersection, si tu veux, à la confluence de tout ce que moi j'aime, tu vois. Le cadre, déjà, hein, la Toscane, Florence, j'ai eu la chance de m'y rendre, c'est là que je veux vivre, tu vois, plus tard, ma retraite, voilà. Donc, le cadre, le monstre de Florence, les années 60, enfin, oui, les années 70 d'une certaine manière et début des années 80 en tout cas. le monstre de Florence, c'est aussi les affaires criminelles non résolues, si tu veux, en tout cas, dont on n'est pas sûr, dont on ne sait toujours pas qui est véritablement le coupable, donc il y a toujours ce côté un peu fascinant. Et puis, ça réfère évidemment au giallo, quoi, parce que le monstre de Florence, c'est une intrigue de giallo, en quelque sorte, quoi. D'ailleurs, mon roman, c'était aussi une manière de rendre hommage au film. Alors, il y en a eu très peu, si tu veux, hein, mais au film, qui ont été inspirés par l'affaire du monstre de Florence, justement, tu vois. Et c'est des giallo. Alors, il y en a trois en fait, hein. Il y a trois giallo en fait, hein, qui sont inspirés de l'affaire du monstre de Florence. Et deux, d'ailleurs, sortent en 1986, tu vois. C'est-à-dire, enfin, tu le sais, hein, un an après en fait le dernier meurtre, tu vois, le dernier double meurtre, en tout cas dans les meurtres officiels, dans le décompte canon, j'ai envie de dire. T'as deux giallo qui sortent l'année d'après le dernier meurtre, le dernier double meurtre du tueur ou des tueurs. Donc, j'avais envie de prolonger, oui, comme tu dis, un travail qui était plus documentaire qu'autre chose, tu vois, bon, les films, les incidences culturelles, l'affaire elle-même, en littérature, etc., par une œuvre de fiction. J'avais envie, effectivement, de me lancer là-dedans. Ça a déjà été fait, hein. Si tu veux, hein, t'as déjà des romans, hein, notamment italiens, tu vois, qui ont exploité, tu vois, la figure d'Il Mostro, hein, mais j'avais envie d'apporter ma pierre en quelque sorte à l'édifice et de connecter mon intrigue, si tu veux, à celle du monstre de Florence. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Mais pour ça, je dois quand même rendre hommage, tu vois, à Jérémy Grima, hein, l'éditeur, hein, le taulier de Zone 52 et de la collection Carnage, parce que c'est lui qui m'a donné l'idée, si tu veux, d'écrire un giallo, tu vois. Et comment il m'a dit, et si on faisait un giallo, un giallo gore, quoi, tu vois. Et j'ai dit tout de suite oui, tu vois, et le truc est sorti en un mois et demi, hein, tu vois, j'ai pas mis plus de temps pour l'écrire, quoi, hein. Et j'ai quasiment pas retouché, tu vois, avant le travail, avant l'édition, quoi, tu vois, avant l'impression, quoi, tu vois. C'est vraiment quelque chose, ouais, qui me tenait à cœur. Je te dis, c'est à la confluence vraiment de tout ce que j'aime, quoi, tu vois. L'Italie, le giallo, l'époque, années 70, années 80, affaires criminelles, tu vois, de serial killer non résolu, tu vois, donc très mystérieuse. Bref, tout pour m'enthousiasmer, si tu veux, et je l'espère, pour m'inspirer un tant soit peu, quoi. Donc voilà, c'est vraiment j'en suis très très content.
Écoutez Culture Prohibée spéciale giallo. Ton travail aussi s'appuie, je suppose, sur une grosse documentation, des voyages à Florence. Enfin voilà, tu sembles complètement imprégné de la ville. Tu as dû quand même énormément travailler ton sujet. J'ai l'impression en fait que, comme on l'a dit à l'instant, c'est la poursuite de ton travail sur le monstre de Florence et que tu t'étais tellement immergé dans le sujet que, comme un peu tu disais à l'instant, tout est venu de façon assez naturelle.
Écoute, oui, c'est un peu ça. T'as raison, hein, si tu veux. Hein. Bon, j'avais tellement déjà, je m'étais tellement. Puis alors, moi, si tu veux, je suis quelqu'un, quand un sujet, tu vois, quand je commence à travailler, entre guillemets, parce que c'est pas du travail pour moi, si tu veux, c'est du plaisir, hein, mais quand je commence à écrire sur un sujet, à creuser un sujet, là, je vais pas m'arrêter, quoi, tu vois, ça peut me réveiller en pleine nuit, je me lève, je vais écrire, enfin, tu vois, je deviens vite monomaniaque, tu vois. Et donc, j'ai effectivement été, mais je me suis immergé littéralement, tu vois, dans le sujet, ça c'est clair, sa géographie, ses dates, son histoire, son contexte, etc. pour le fanzine que j'avais sorti, si tu veux, et ça m'était resté évidemment dans la tête, tu vois. Et donc, j'ai retravaillé, recreusé en quelque sorte, tu vois, encore plus profondément la chose, notamment d'un point de vue purement toponymique, tu vois, d'un point de vue purement géographique, tu vois, pour la ville, etc. Et donc, oui, je me suis... là, j'étais complètement dedans, tu vois. Et là, tu vois pas les heures défiler, quoi. Enfin, tu sais ce que c'est. Et donc, j'ai vraiment creusé la chose, oui. Alors, ceci dit, attention, la ville que je le portrait, enfin du moins la description que je fais de la ville, si tu veux, est comment dire, est aussi un peu fantasmatique, tu vois. Tu vas avoir des quartiers qui n'existent pas réellement, des lieux interlopes, tu vois, qui sortent tout droit de mon imagination. Mais le fond, si tu veux, comment dire, le fond toponymique, les monuments, les grandes avenues, les rues, l'ambiance que moi j'ai pu ressentir quand j'y suis allé, s'y trouve. Tu vois, bon, avec évidemment l'imagination qui fait le reste pour transformer tout ça à une sauce horrifique et à une sauce gialesque, entre guillemets, quoi.
Ton livre met en avant, même si la ville, effectivement, la ville de Florence est réellement le personnage principal, à plusieurs époques d'ailleurs, hein, puisqu'on fait, on fait des allers-retours dans le passé, ceux dès le début du livre, mais en avant, un inspecteur Brighelli, que alors déjà peut-être qu'on le reverra dans d'autres bouquins, ça tu vas nous le dire, mais très proche, pour moi, du flic de Folie meurtrière de Tonino Valerii, jusqu'à avoir des problèmes de libido parce qu'il est obsédé par son enquête.
Ah, c'est marrant ça. Alors là, tu vois, ça c'est très marrant, tu vois, parce que j'ai pas du. Alors, pour le coup, oui, bon, je vois très bien, hein, Folie meurtrière. Mais alors, tu vois, ça, alors je l'ai pas du tout imaginé, si tu veux, comment dire, d'après ce film, tu vois. J'avoue, ça ne m'a pas traversé l'esprit. Mais maintenant que tu le dis. Tu vois, effectivement, tu vois. Alors peut-être que c'est inconscient, tu vois. Peut-être que c'est une espèce de comment dire, de souvenir, tu vois, comme ça, qui était latent, tu vois. Mais je me suis pas comme ça consciemment inspiré de ça. Moi, ce qui m'inspire, si tu veux, pour le dessin de mes personnages, que ce soit des personnages, on va dire positifs entre guillemets ou négatifs, comment dire, sont vraiment des obsessions, comment dire, personnelles, tu vois, pour le coup, tu vois. Enfin, en tout cas, comment dire, des thèmes qui me travaillent, tu vois, mais en tant qu'être humain, tu vois, bon, voilà, le couple, bon, la relation parfois difficile entre l'homme et la femme, etc. Et donc, mais je me suis, pour le coup, tu vois, pour le dessin de ces personnages-là, je me suis pas inspiré, si tu veux, de personnages cinématographiques, tu vois.
Ouais, non, c'est marrant parce que effectivement, dans le film de Tonino Valerii, l'enquêteur est bon déjà, ce qui n'est pas souvent le cas dans le giallo. Et puis, il a, parce que là c'est pareil, ton Brighelli, il est bon, il est entouré d'incompétents, mais lui il est plutôt bon. Et puis il a des problèmes dans son couple, comme le personnage de Folie meurtrière, d'où ma réflexion, mais effectivement, c'est peut-être juste inconscient. Hein, voilà.
Non, mais c'est très intéressant et tu me donnes envie de le revoir d'ailleurs parce que tu vois, si ça se trouve, si tu veux, bon alors ça c'est pareil, ça faut que je le revoie, tu vois. Mais il est tout à fait possible, tu vois, que ça m'ait marqué même inconsciemment. Hein. Par contre, alors là où je peux rebondir, c'est par exemple, t'as un personnage, par exemple le personnage du journaliste, tu vois, bon, qui va finalement l'aider, hein, et qui va finalement sauver le flic, tu vois, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je pense au début. Là par contre est inspiré, si tu veux, bon, mais j'ai un peu noirci le tableau parce que le journaliste en question était plutôt avait l'air plutôt sympathique, bon, tu vois, et compétent, etc. Mais là, pour le coup, est inspiré d'un vrai journaliste, si tu veux, ayant travaillé sur l'affaire du monstre de Florence à l'époque. Tu vois, hein, bon, le journaliste, je sais plus si tu te rappelles dans le bouquin, hein, mais qui le sauve à la fin, quoi, tu vois, dans le palais, enfin, dans le palazzo des criminels, quoi, en fait, hein, tu vois, qui arrive et puis qui sauve, bon, un peu comme un Deus ex machina, tu vois, le couple, quoi, hein, Brighelli, puis son épouse, quoi. Hein. Donc voilà, ça, par contre, c'est là, pour le coup, j'avoue, je me suis inspiré, si tu veux, d'un journaliste ayant travaillé sur l'affaire. Un journaliste mort, hein, malheureusement, aujourd'hui, bon, tu vois, qui avait écrit un livre qui s'appelle, bon, Le Monde, enfin, qui a été traduit en français, donc sous le titre tout bête, Le Monstre de Florence, une histoire vraie, et qu'il avait coécrit, alors il s'appelait le journaliste Mario Spezzi, et il avait coécrit ce bouquin avec Douglas Preston, tu sais, l'écrivain américain. Et bon, c'est un livre, c'est un des rares livres déjà apparus en France sur cette affaire, tu vois, et c'était un journaliste de la Nazione, hein, bon, quotidien florentin, tu vois, et qui avait consacré toute sa vie quasiment, si tu veux, à cette affaire, tu vois, au point même, bon, d'en devenir obsédé, et au point même, à un moment donné, d'avoir été lui-même, je sais pas si tu te rends compte, mais lui-même soupçonné, tu vois, d'être, comment dire, l'un des complices du monstre, voire le monstre lui-même. Il a passé quelques jours en prison, quoi, tu vois. Donc c'est, voilà, ça c'est un journaliste, ouais, qui m'a pas mal inspiré, si tu veux, dans le dessin de ce personnage, tu vois.
Mmh. Alors, fais attention, David, à ne pas te retrouver en prison. Ça serait embêtant quand même.
j'ai risqué plus gros, je pense, avec sanction.
Hein. Ouais, c'est sûr. L'inspecteur Brighelli, il reviendra ou pas? Alors, je me pose juste la petite question. Est-ce que c'est un ça peut devenir un personnage récurrent?
Alors, écoute, là, t'es en train de me donner une idée, parce que je n'y avais pas pensé, mais tout ce que je peux te dire, parce que je ne veux pas non plus trop dévoiler, tu vois, c'est que si tu veux, bon, dans un prochain Carnage, mais qui ne sera pas signé de moi, qui ne sera pas de moi, si tu veux, il se peut fort, si tu veux, qu'il réapparaisse comme ça, mais sous la forme plus, bon, d'un clin d'œil, tu vois, d'une petite référence, bon, voilà. Il peut réapparaître, si tu veux, mais ce ne sera peut-être pas sous ma plume, étrangement, tu vois.
D'accord.
J'en dis pas plus, mais bon, voilà, il y aura peut-être un pont, si tu veux, avec un autre roman, si tu veux, signé par quelqu'un d'autre, où ce personnage réapparaîtra. Donc voilà, c'est plutôt amusant, quoi. C'est un des futurs auteurs, tu vois, dans la collection Carnage qui a soumis l'idée, tu vois, qui m'avait contacté. Et je lui avais dit, évidemment, bah, avec plaisir, tu parles avec plaisir.
Tu parlais de tes influences pour les personnages, mais en termes d'écriture, c'est quoi tes influences? Après tout, on n'en parle jamais. Et puis là, petit à petit, tu commences à t'affirmer comme quelqu'un qui écrit de la fiction, donc bien loin de la critique cinéma ou de l'analyse cinéma, qui est quelque chose de différent encore, je trouve, là. Là, tu es vraiment dans la fiction avec où tu affines un style. En plus, tu as un style assez sec, assez tendu, qui est très accrocheur, voilà, qui donne envie de poursuivre la lecture. Quelles sont un peu tes influences en termes d'écriture et puis comment tu la travailles, ton écriture, d'ailleurs?
Alors, écoute, ça, si tu veux, j'ai pas réellement, si tu veux, de mentor, tu vois. Alors tu connais mon métier. Bon, je suis prof de français, donc si tu veux, la fréquentation des textes, je connais, tu vois. Et si tu veux, je mets un point d'honneur. Alors après, c'est réussi ou pas, hein, attention. Hein, mais j'essaie en tout cas de mettre un point d'honneur, dans l'écriture, tu vois, mais la pure forme, tu vois, la pure forme, la scansion de la phrase, si tu veux, le rythme de la phrase, tu vois, ça c'est un truc, si tu veux, qui m'obsède, tu vois, et je peux, tu vois, je vais pas me comparer à des écrivains qui sont bien au-dessus de moi, tu vois, mais je peux, si tu veux, pas mal de temps sur un petit paragraphe, tu vois, parce que je trouve qu'au niveau rythmique, tu vois, moi je récite mes phrases, hein, tu vois, je les récite à haute voix quasiment, tu vois, bon, je peux passer donc pas mal de temps à déplacer une virgule, tu vois, déplacer un groupe de mots, tu vois, pour que le rythme, si tu veux, me convienne, tu vois, ça j'y tiens énormément, tu vois, c'est pour moi c'est le plus important, hein, tu vois, moi tu sais, sans vouloir paraître, tu vois, sans vouloir péter plus haut que le trou, on va dire, moi je suis un formaliste, hein, tu vois, c'est vraiment, si tu veux, ce qui m'importe, c'est la forme. Tu vois, c'est la forme. Et de la forme, d'ailleurs, vient le fond, si tu veux. Hein. Bon, voilà. S'il n'y a pas la forme, à mon avis, il n'y a pas le fond. Et donc, voilà, c'est vraiment ça. Ça, pour le coup, tu mets le doigt sur quelque chose qui m'apporte vraiment. C'est l'écriture, tu vois. C'est ce rythme que j'essaye d'imprimer à la phrase, de manière à accrocher bien sûr le lecteur, puisqu'on est dans la narration. Et d'ailleurs, bon, au niveau écriture, je suis assez content de moi, tu vois. Par contre, après, au niveau, si tu veux, de la structure narrative, tu vois, de l'enchaînement des événements proprement dit, bon, là, par contre, je sais que j'ai énormément de progrès à faire, quoi, tu vois. Bon, voilà, hein, parce que moi, je suis pas écrivain, tu vois, de profession, quoi. Hein, bon, voilà. Et donc, voilà, mais j'ai pas, si tu veux, de mentor. Les premiers pour sanction, par exemple, si tu veux, j'ai été fortement influencé par tous les écrivains que j'ai pu lire, d'horreur, tu vois, notamment ceux de la collection Gore, tu vois, les écrivains français, je sais pas moi, Corsellien, enfin, tu sais, des gens comme ça, hein, Nécrorian, enfin bon, Donc tous ces écrivains-là m'ont évidemment influencé, tu vois. Bon, parce que je les ai fréquentés souvent et longtemps. Bon, mais pour Sirène Zerossa, j'ai essayé d'avoir une écriture plus, comment dire, plus raffinée, entre guillemets, tu vois, malgré les horreurs que je peux raconter, tu vois. Bon, parce que le thème abordé, le genre dans lequel j'inscris le bouquin, est un genre purement formaliste, quoi, tu vois. Enfin, en tout cas, à mes yeux, hein, qui est le giallo, tu vois. Et donc, voilà, j'avais à cœur vraiment de soigner la phrase et l'écriture pour ça, pour qu'il y ait une espèce de cohérence, si tu veux, entre le cadre, entre le genre et l'écriture proprement dite.
Écoutez David Didlot, auteur de Firenze Rossa, paru dans la collection Carnage chez Zone 52 Éditions, au micro de Culture Prohibée. Tu fais un choix, tu mélanges le français et l'italien. Tu pourrais à la limite tout laisser en français et puis franciser les termes italiens ou certains noms italiens. Et tu choisis de mélanger les termes. Je pense que c'est évidemment dans un but rythmique aussi, comme tu le disais à l'instant. Est-ce qu'au moment de l'écriture, tu as douté là ? Tu t'es dit, est-ce que je dois vraiment faire ça ? Ou est-ce que je francise tout ? Enfin, je suppose que c'est une question qui t'est venue en tête quand même.
Oui, carrément. Alors ça, tu vois, c'est une très bonne question, parce que figure-toi que ça, tu vois, c'est un truc que j'ai retouché, tu vois, parce que, en fait, au départ, j'avais mis plus d'italiens, tu vois, j'avais mis plus de mots italiens. Alors, la raison est toute bête, tu vois, et elle est un peu naïve, c'est d'essayer, bon, comment dire, de conférer au récit, tu vois, une espèce de tonalité plus pittoresque, tu vois, bon, de manière à ce que le lecteur se sente vraiment en Italie, voilà. Bon, c'est un peu naïf, c'est un peu gadget, tu vois. Et là, pour le coup, l'éditeur, mais je pense qu'il a très bien fait, tu vois, quand il a reçu mon manuscrit, hein, tu vois, m'a dit, ouais, il y a peut-être trop de mots, tu vois, trop d'expressions, italiennes. Ça fait un peu gadget, quoi, tu vois, ça fait un peu gimmick, répétitif, tu vois. Et donc, j'en ai supprimé pas mal. Alors, j'en ai laissé quelques-unes, tu vois, bon, c'est vrai, voilà. Mais, c'est effectivement une question. Je me suis dit, est-ce que je mets un peu d'italien ? Est-ce que je mets tout en français ? Et puis finalement, parce que j'adore ce pays, parce que, tu vois, j'adore cette langue que je parle très, enfin, que je ne parle pas, hein, mais que je lis très mal, hein, mais parce que j'adore le son, simplement, tu vois, la musique de la langue. Bon, si tu veux, je me suis dit, oh, je vais en laisser quelques-uns, quoi, qui sont facilement en plus compréhensibles, si tu veux, par le lecteur, même s'il n'a pas fait d'italien, vu que c'est une langue latine, bon, les mots se ressemblent avec le français, quoi, tu vois. Et donc, voilà, quoi, tu vois, mais c'est une vraie bonne question. Je me suis posé la question, tu vois, à un moment donné. Est-ce que je mets tout en français ou est-ce que je laisse quand même quelques mots à l'italienne, quoi, tu vois. Et j'ai laissé quelques mots à l'italienne, notamment, alors, toi, t'es grand connaisseur, mais notamment pour quelques répliques, si tu veux, ou quelques réflexions qui sont carrément, en fait, des titres de giallo. Tu vois, je pense notamment à La Policia Brancola nel Buio, tu sais, qui est un giallo complètement raté, on peut le dire, tu vois. Et à un moment donné, il y a un des personnages qui le dit, quoi, tu vois. La police avance dans le noir, je crois. Hein. Bon, voilà, en gros, tu vois. Et c'est, tu connais ce giallo, je suppose.
Oui, bien sûr, c'est pas le meilleur, mais oui, je connais.
Voilà. Mais tu vois, c'est toujours pareil. Moi, mon but, mon objectif, c'était pas, si tu veux, de faire des clins d'œil ou de faire des mamours, tu vois, aux grosses machines du genre. Tu vois, c'était vraiment d'aller chercher, dans les sous-sols, tu vois, dans les fonds de tiroirs du genre. C'est ça qui m'intéressait, en fait, tu vois. Et donc, là, je me suis dit, ah, allez, je mets l'expression en italien. En plus, ça réfère à un giallo qui est souvent complètement déglingué, tu vois. Mais qui, pourtant, moi, me fait bien marrer, tu vois. Et donc, voilà, tu vois, voilà, c'est pour ça. Un autre truc aussi, tu vois, qui rejoint un petit peu ce que ta question, qui est connexe un peu à ta question, c'est, et tu vois, les références. Tu vois, les clins d'œil, les noms propres cités, que ce soit des films, des acteurs, des réalisateurs et tout. Ça, tu vois, c'est pareil. J'ai mis un peu la pédale douce. Au départ, il y en avait plus. Et ça ressemblait probablement à une espèce de catalogue de fans, tu vois. Un livre de fans plus qu'à un récit proprement dit. Et donc, là, j'en ai supprimé aussi. Tu vois, j'ai supprimé quelques références, tu vois, quelques clins d'œil, quelques citations, tu vois, on va dire. À un moment, ça faisait peut-être un peu trop catalogue, tu vois, mais j'en ai laissé quand même, parce que, voilà, quoi, je voulais me faire plaisir aussi, quoi, donc, voilà, je voulais parler de ce que j'aimais, c'était l'occasion, et donc, voilà, un petit peu comme dans Sanction, d'ailleurs, hein, tu vois, un petit peu comme dans Sanction.
Il y a un sujet que je voulais aborder avec toi aussi, il y a quand même une grande place pour l'érotisme dans tes deux fictions. Est-ce que tu envisagerais, alors ça se finit souvent mal, mais après, je pense que tu pourrais écrire de l'érotisme qui se finit bien, voilà, et est-ce que tu envisagerais à l'avenir d'écrire un ouvrage qui serait de la littérature érotique, vraiment de la littérature érotique assumée comme telle voilà, j'ai l'impression que ça te tente quand je lis tes bouquins.
Carrément, on me l'a déjà proposé, tu vois, et si tu veux, oui, on m'a déjà proposé parce qu'on m'a dit, si tu veux, que, comment dire, en fait, ça m'a fait à la fois plaisir, puis en même temps, c'est bizarre, le sentiment est un peu étrange, mais tu vois, on m'a dit que, par exemple, mes descriptions, si tu veux, enfin, l'évocation des scènes purement pornographiques ou purement érotiques, plus pornographiques qu'autre chose quand même, si tu veux, on m'a fait des compliments sur ces scènes-là, si tu veux, tu vois, on m'a dit, que c'était bien raconté, quoi, tu vois, que c'était, voilà. Peut-être plus encore, si tu veux, que les scènes de meurtre, de gore, tu vois, proprement dites, tu vois. Et donc, on m'a dit, ouais, écoute, tu devrais écrire carrément un roman érotique, mais pur, quoi, tu vois, voilà, un pur roman érotique, voilà, hein, comme un peu en édité, enfin, je sais pas, moi, tu vois, la Musardine, etc., enfin, comme peut en éditer la Musardine, etc., tu vois. Et donc, Média 2000, etc., ce genre de petit roman. Et donc, Média 1000. Et donc, voilà, ouais, c'est quelque chose qui me travaille. Et alors ta question tombe à point nommé parce que tu vois mon prochain fanzine entre guillemets, tu vois, ma prochaine publication, ce sera complètement entièrement sacrifié, tu vois, à la pornographie au cinéma, tu vois. Et là c'est assez cohérent, quoi, tu vois. C'est un domaine qui m'intéresse, en fait, si tu veux, où je trouve pas mal de je trouve que c'est un espace de liberté, si tu veux, qui est presque aussi important, presque aussi vaste, si tu veux, que le fantastique ou que l'horreur, tu vois. Et donc, c'est effectivement un genre qui m'intéresse de plus en plus, tu vois. Là, je viens de rédiger un énorme dossier, tu vois, sur Marina Fragese, tu vois, Marina Lothar, hein, tu sais, Marina Edman, avec tous les pseudos qu'il y a là. Et donc, je peux te dire que je me suis rarement autant, éclaté à écrire un truc, quoi, tu vois. Je trouve que c'est un monde à explorer, quoi, tu vois. Il y a encore tellement de choses à explorer dans ce genre-là, tu vois. Et donc, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et j'y vois, si tu veux, un genre très, très libre, tu vois. Intéressant, surtout aujourd'hui, si tu veux, à explorer. Voilà, tu vois. Qui va, en fait, qui est aux antipodes, quand tu réfléchis bien, qui est aux antipodes des nouvelles doxas, tu vois, des nouvelles modes idéologiques, etc. Et je trouve qu'en ce sens-là, c'est vachement intéressant.
Quel réal, vivant ou mort, hein, tu rêves d'avoir comme adaptateur de ton livre ?
La question, terrible. Ah, écoute, je vais pas faire dans l'originalité, mais tu sais, moi, il y a un réalisateur qui, pour moi, réunit, si tu veux, à peu près tout ce que j'aime, enfin bon, si tu veux, qui est pour moi une espèce de symbole, tu vois, édifiant, tu vois, de tout ce que je peux aimer, pas forcément pour la qualité de ses films, d'ailleurs, mais plus pour ce qu'il représente. Bon, un réalisateur comme Joe D'Amato, tu vois, derrière Firenze Rossa, j'aurais dit oui, quoi.
vous écoutez Culture Prohibée. On est aujourd'hui ensemble aussi pour parler de ce film au titre interminable, hein, qui est sorti chez nos amis d'Uncut Movies, Il Gatto d'Agli Occhi di Giada. J'espère que ma prononciation est bonne, qui était un film d'Antonio Bido, qui est un film de 77, qui est un giallo tardif, et qui est, ma foi, un film assez méconnu, qui n'avait pas bénéficié de... Enfin, il y avait une édition américaine, Watch Me When I Kill, qu'on pouvait voir, mais qui était difficilement trouvable, sinon, et qui est le premier film donc, du réalisateur de Terreur sur la Lagune, donc qui fera deux giallos quand même... d'assez bonne facture. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce chat aux yeux de jade?
C'est un giallo, oui, que j'ai découvert assez tardivement en fait, parce que comme tu dis quoi, hein, pas facilement harponnable, on va dire. Et donc j'ai tout de suite apprécié quoi. Alors Terreur sur la Lagune, déjà j'avais beaucoup aimé, hein, tu vois, vraiment, notamment pour le cadre, hein, t'imagines bien. Et Le Chat aux yeux de Jade, donc hein, Gatto d'Agli Occhi di Giada, beaucoup aimé parce que si tu veux, alors c'est très intéressant, c'est ce que tu disais, c'est un giallo si tu veux tardif, hein, je crois qu'il est de 77, et il sort après Les Frissons de l'Angoisse, il sort à un moment donné en fait où le giallo a perdu un peu de sa superbe quoi, tu vois, il en sort déjà beaucoup moins en Italie, hein, tu vois, et même à l'international. Bon, et en fait, je crois que c'est Jean-François Roger qui avait dit ça, c'est-à-dire que c'est un réalisateur, il a 26 ans, je crois, hein, si je ne me trompe pas, quand il fait ce film-là, tu vois, je crois que c'est son premier film, et il arrive, en fait, si tu veux, jeune, sur le tard, quoi. Tu vois, et donc si tu veux, c'est y a une espèce comme ça de distorsion, de discrépance, tu vois, entre son âge, ses intentions et un genre dans lequel il veut s'inscrire et qui est plutôt, si tu veux, pas moribond, mais enfin qui n'a plus l'aura qu'il avait en 71, 72 par exemple, tu vois. Donc ça c'est vachement intéressant. Alors ce qui est intéressant aussi, si tu veux, en tout cas à mes yeux, hein, c'est que il s'inscrit très clairement dans la veine des giallos de Dario Argento, dont il est vraiment grand admirateur, hein, tu vois, notamment des Frissons de l'Angoisse. Bon, mais alors ce qui est intéressant, si tu veux, c'est qu'il arrive, selon moi en tout cas dans ce film là à s'en départir malgré tout, c'est-à-dire que il y a une patte, tu vois, il y a une patte Antonio Bido quoi dans ce film là c'est un film par exemple assez peu, enfin en tout cas moi je l'ai vécu comme tel, assez peu sanglant, assez peu graphique visuellement, tu vois, au niveau de la violence. C'est un film aussi qu'on pourrait presque qualifier d'anti-érotique. Tu vois, je crois que dans mon souvenir, les victimes ne sont quasiment que des hommes. Tu vois, anti-érotique aussi dans la mesure où la scène de la salle, il y a un meurtre en salle de bain comme souvent, tu vois, mais la victime, hein, dans mon souvenir, c'est un vieil homme quoi, hâve, squelettique, tu vois, anti-érotique en quelque sorte quoi, en tout cas selon les canons et les critères du giallo quoi. Voilà, c'est pas une belle nana au gros sein qui se fait massacrer dans sa baignoire quoi. Alors c'est très Argento, alors aussi dans la musique par exemple, hein. Alors attends, le groupe c'était Transoro Express, je crois. C'était une musique qui ressemblait énormément à celle des Goblins, me semble-t-il, tu vois, avec une basse assez lourde et tout. Bon, voilà. Donc il y a des traits très Argento et en même temps, j'ai l'impression qu'il casse quelques codes. Tu vois, qui va casser quelques codes. Il y a aussi une espèce de mise en abîme, tu vois. Le giallo, c'est que c'est un genre très théâtral, qui théâtralise la mort, qui théâtralise le crime et tout. Et là, il y a une espèce de mise en abîme, parce que dans mon souvenir, l'héroïne, je crois, elle travaille plus ou moins dans le monde du théâtre, dans le monde des cabarets, tu vois. Et donc, et à un moment donné, je crois, si je ne me trompe pas, qu'Antonio Bido lui-même apparaît dans le film, me semble-t-il, hein, en tant que metteur en scène. Tu vois, donc si tu veux, il y a comme une espèce comme ça de jeu de miroir, si tu veux, entre le genre lui-même, qui est un genre très théâtral, très bon, voilà, qui aime mettre en scène, tu vois, la mort, hein, la transfigurer de manière artistique, et si tu veux, l'intrigue du film, de l'intrigue elle-même du film, quoi. Et ça, je trouvais ça intéressant. Puis alors, ce qui est très intéressant, et là, ce qui pour le coup change du tout au tout par rapport au giallo, on va dire, commun et classique, c'est l'épilogue, le dénouement, qui là pour le coup plonge alors dans un plonge dans une ambiance qui n'est plus du tout celle du giallo habituel, hein, puisque bon, je veux pas dévoiler pour ceux qui ne l'auraient pas vu, mais là on est dans les tragédies de l'histoire, quoi, tu vois, les tragédies de l'histoire du XXe siècle, quoi, et de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est un giallo vachement intéressant, en fait, tu vois, alors que d'aucuns ont trouvé assez lent, tu vois, assez peu enthousiasmant, assez peu incitatif, parce que pas très violent, tu vois, bon, voilà, pas très érotique, bon, mais qui, en fait, casse pas mal de codes, tu vois, du giallo habituel, et en cela, je le trouve vachement, vachement intéressant, quoi, tu vois, presque plus intéressant, finalement, que Terreur sur la Lagune, qui me semble être, alors que j'adore, tu vois, notamment pour le cadre et tout, puis pour l'intrigue aussi, bon, j'aime beaucoup, mais plus classique, si tu veux, plus classique, tu vois, dans son filmage, dans les thèmes abordés, voilà, et dans les motifs exploités. Et là, je trouve que, ouais, il y a quelque chose de vraiment, vraiment intéressant et original dans ce giallo. Voilà, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai donc accepté avec plaisir de faire une espèce de bonus, tu vois, pour cette édition. Ouais, ouais. Je sais pas ce que t'en penses, toi, hein, de ce giallo, mais moi, j'adore. Hein.
Alors, c'est un giallo qui... Alors, moi, les giallos d'Antonio Bido, pour les giallis, ouais. Les giallos, moi, je francise, hein, je fais des giallos. Oui, oui. Que ce soit Terreur sur la Lagune ou celui-là, moi, bon, je l'avais déjà vu, hein, avant qu'il sorte. Bon, là, je l'ai revu, parce que la copie, elle est fort belle. Voilà. À la première vision, m'avaient tous les deux, je dis bien tous les deux, même Terreur sur la Lagune, assez déplu. Pour des raisons qui font qu'aujourd'hui je les aime bien, en fait. C'est assez drôle. Je pense qu'à l'époque où je les ai vus, j'étais dans une période, c'était il y a très très longtemps en arrière, hein, c'était à l'époque de la VHS de Watch Me When I Kill, hein, que j'avais récupéré, et tout, voilà, à l'époque qui était en pâle d'ailleurs, la VHS. C'est à l'époque où on avait le Sekam chez nous, c'était un peu compliqué. J'avais trouvé un aspect naturaliste à ces giallo, en fait, qui me rebutait. Alors qu'en fait, aujourd'hui, je suis assez d'accord avec toi, le fait que il y a des cadavres tout le long du film et tout ça et tout, mais le fait c'est un film sans érotisme, on peut le dire, hein, malgré que l'héroïne soit plutôt une jolie danseuse de cabaret, hein, qui voit un meurtre, en fait, qui assiste à quelque chose en voulant aller acheter quelque chose dans une pharmacie, qui assiste à un meurtre et puis qui a une réminiscence picturale, là, on est complètement, alors, chez Antonioni, mais à mon avis, beaucoup plus chez Argento, parce que Bido est très fan d'Argento, et petit à petit, on sait que le tueur commence à tuer plein de gens et qui se rapproche d'elle, et qui va vouloir finir par la tuer. Et effectivement, à part un meurtre où on met une tête, une femme qui se fait coincer la tête dans un four, qui est un meurtre un peu plus costaud que les autres, globalement, le film est anti-spectaculaire. Et en fait, aujourd'hui, c'est ce qui, pour moi, fait la qualité du film et mérite son visionnage. Mais il faut dire qu'entre le moment où, la première fois où j'ai vu les films de Bido et aujourd'hui, où j'approche la cinquantaine, j'ai vu des centaines de giallos entre deux. Et du coup, je trouve que c'est très intéressant, ce giallo, puisque Bido arrive... Il s'inscrit dans la continuité d'Argento, comme on l'a dit tout à l'heure, tout en produisant une œuvre, alors très modeste évidemment, on n'est pas, d'abord c'est un peu fauché je pense, très modeste, mais où il construit quand même ses propres thématiques, c'est comme un auteur en fait, son propre univers, c'est intéressant je trouve.
Exactement. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est exactement comme ça que je le vois, tu vois. Je veux dire, bon, premier, tu vois, les premiers visionnages, bon, tu te dis, ouais, bon, c'est un peu, enfin voilà, quoi, tu vois, c'est un peu tristounet, quoi, tu vois, c'est un peu fade par rapport à des dialogues beaucoup plus baroques, tu vois, ne serait-ce que dans la photo et tout, tu vois. Bon, et en fait, En fait, ce dialogue, c'est, enfin, je sais pas, c'est une espèce de mélange, quoi, de subtil mélange, tu vois, entre les traits caractéristiques du dialogue, le côté opératique, tu vois. Je repense à ce meurtre-là, tu vois, du vieux dans la baignoire. Bon, je crois qu'il y a le Ghesira et Verdi, tu vois, qui tournent en même temps, tu vois. Bon, là, on est dans le dialogue pur, quoi. Bon, et en même temps, un côté très, oui, voilà, comme tu dis, c'est, je crois que c'est l'expression qui convient le mieux, tu vois, anti-spectaculaire. Tu vois, et quand même assez comment dire assez sombre, quoi, tu vois, notamment dans le dénouement, quoi. Bon, et puis alors moi j'y vois aussi, si tu veux, bon, alors là c'est un trait assez caractéristique du giallo, mais tu sais, toutes les scènes, je crois que c'est sur la fin, hein, quand le héros, tu sais, va à Padoue, tu vois, l'exploitation du, tu sais, à Padoue, en Vénétie, hein, bon, l'exploitation du décor, bon, tu vois, avec ces personnages hyper étranges, bon, comment dire, cette espèce de d'ambiance là, comme ça, qui règne, tu vois, dans la ville, bon, ces yeux là, tu vois, moitié morts déjà, mi vivants mi morts, tu vois, là, qui écoutent une espèce de récital là, hein, d'opéra, tu sais, c'est très bizarre, moi ça m'a fait penser parfois, tu vois, cette ambiance un petit peu comme ça, comment dire, morbide, puis en même temps un peu décrépit, tu vois, ça m'a fait penser un petit peu à la maison fenêtre Thierry aussi, tu vois, de Poupi Avati, tu vois, parfois, bon, à la fin, hein, en tout cas, hein, plutôt dans la deuxième partie du film, enfin bref, moi je vraiment c'est un dialogue que j'ai vraiment 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 apprécié, tu vois. Et d'ailleurs j'en avais écrit, bon, quelques pages, enfin j'avais écrit quelques pages dessus, et puis bon, sachant que Romuald et Patrice, donc Uncut Movies, font les livrets, tu vois, bon, j'en ai pas parlé, tu vois, dans le bonus que j'ai tourné, hein, puisque ça aurait fait redite sinon, hein, tu vois, mais bon, j'avais écrit un article assez long sur le truc, peut-être qu'un jour je le ressortirai, quoi.
Vous écoutez David Didlot, intervenant de 50 nuances de jaune, documentaire accompagnant Il Gatto d'Akli Oki di Giada d'Antonio Bido, disponible chez Uncut Movies, au micro de Culture Prohibée. D'ailleurs, le bonus qui s'appelle 50 nuances de jaune, c'est, ouais, j'ai envie de dire, c'est un complément, c'est une introduction parfaite pour ceux qui voudraient découvrir le giallo, et c'est aussi un complément filmé de ton travail pour l'écran fantastique spécial giallo, le hors-série qui était sorti là.
Oui, si tu veux. Alors là, c'est bon. Alors si tu veux, là, c'est vraiment comment dire. Voilà, c'est exactement ce que tu dis. Hein. J'ai pas du tout voulu faire œuvre, tu vois, d'originalité ou de je ne sais quoi. Bon, le contrat était le suivant, de toute façon, hein, était celui-ci. Hein. C'était vraiment, comme tu dis, une introduction, tu vois, à un genre. Tu vois, pour des gens qui ne connaissent pas forcément de fond en comble, tu vois, le genre, bon, voilà, c'était vraiment une présentation très générale, si tu veux, de ce que recouvre le mot giallo, hein, voilà, hein, c'est pas plus que ça. Alors c'est un peu long, tu vois, parce que le truc est tellement riche, tu vois, le genre est tellement, enfin c'est pas à toi que je vais l'apprendre, mais le genre est tellement riche que bon, évidemment, ça ne peut être que long, quoi, si tu veux être un minimum complet, tu vois, un minimum exhaustif, hein, mais ce n'est qu'une introduction, tu vois, voilà, avec un regard un peu particulier, bon, qui est le mien, quoi, bon, comme tout à chacun, mais si tu veux, c'est très modeste, hein, tu vois, c'est vraiment, c'est modeste, hein, c'est même pas sur les films de Bido, en fait, hein, tu vois, ça recouvre, en tout cas, une grosse partie du spectre du giallo, quoi, voilà, hein, c'était comme ça que je le voyais, quoi, hein, et que le voyaient les éditeurs.
Eh ben, j'ai envie de dire, la mission est accomplie. Alors pour terminer cette émission, alors je vais parler d'un Diallo, puis après je te laisserai terminer sur un autre Diallo qui sort chez nos amis d'Artus Film. Il y a deux Diallo qui sortent chez Artus Film. Il y a L'œil du labyrinthe, qui est un film de 72 de Mario Caiano. Alors je vais rapidement parler du film. Hein. C'est l'histoire de Julie qui recherche Lucas, son compagnon médecin, qui serait, selon son agenda, parti dans le village de Maracoudi, village mystérieux. Hein. Et elle s'y rend, et après avoir échappé à une tentative de meurtre, elle est secouru par un certain Franck qui l'installe dans un orphelinat. Il finit par lui révéler l'existence d'une villa dans laquelle aurait séjourné Lucas. Et bien sûr, elle va se rendre dans cette vaste propriété et y rencontrer trois couples. L'un qui est constitué de deux piètres acteurs, le deuxième d'une photographe et d'un compositeur, et le troisième de la maîtresse des lieux, la cinquantenaire Gerda et son jeune amant toxicomane Louis. Et va alors commencer un bien étrange film, une bien étrange histoire. Mario Caiano, qui est réalisateur de l'excellent Les Amants d'Outre-Tombe, de 65. Et là, il réunit tous les ingrédients d'un bon giallo de machination. Alors, le film dispose d'une ravissante héroïne, Rosemary Dexter, que quelqu'un tente d'assassiner à plusieurs reprises, dont l'amant a disparu dans une villa peuplée d'individus tous plus suspects les uns que les autres. Mais à l'image du couteau de glace de Lenzi, un élément scénaristique va venir tout chambouler. Il est évident que Caiano s'amuse beaucoup à mettre les nerfs du giallo fil à rude épreuve. Adepte de la caméra à l'épaule, il signe une mise en scène virevoltante servie par un découpage dynamique, une belle photographie de Giovanni Carlo qui, la même année, et réalise celle de l'injustement méconnue La Proie des Vierges, L'Arma, Laura et Movente de Francesco Mazzei. Excellent film, je ne sais pas si tu connais d'ailleurs, mais je suppose. Qui est vraiment méconnu. Et Caiano semble transporté un peu par la superbe partition jazzy de Roberto Nicolisi. Les mouvements de sa caméra collent aux expérimentations sonores du compositeur de la bande originale de La fille qui en savait trop. Le générique d'ouverture se conclut par une citation de Borges qui dit « Un labyrinthe est construit pour confondre les âmes des hommes, son architecture rigoureuse répond à cette fonction ». Et c'est extrait d'une nouvelle intitulée « L'immortel » dans laquelle le narrateur doit traverser une succession de galeries. Et c'est parfaitement illustré par les premières minutes du film durant lesquelles Lucas Horst Frank est poursuivi par un tueur dans un dédale labyrinthique constitué d'un enchevêtrement de formes géométriques qui évoque évidemment l'expressionnisme et le cabinet du docteur Caligari de Robert Vineux. Alors la caméra de Caiano est renversante, cherchant les angles les plus fous, allant jusqu'à pivoter à 180 degrés. L'utilisation d'une focale courte insécurise le spectateur, tout autant perdu que Lucas. Et alors qu'il est poignardé, une sonnerie retentit, c'est celle d'un téléphone. Julie est réveillée, ce n'était qu'un cauchemar, mais le songe rejoint la réalité car Lucas a bel et bien disparu. Et je n'en dirai pas plus, si ce n'est que je vous conseillerais vivement de visionner cet excellent giallo méconnu qui est plein de citations, qui cite les 100 contes drôlatiques de Balzac, qui permet de... Il y a Adolfo Celli aussi en personnage ambigu qui est excellent et qui cite Graham Greene et son Américain bien tranquille. C'est un faux film léger en fait, c'est le haut du panier de la série B. C'est un giallo en plus cinétique qui s'inscrit dans beaucoup d'expérimentations visuelles telles qu'on le pratiquait à l'époque, telles que, comment dire, qui était beaucoup pratiquée en Italie et que Clouseau avait essayé aussi de faire avec sa version de L'Enfer. Voilà, donc j'en dirai pas plus. C'est un giallo très riche, méconnu et que j'invite tous les auditrices et auditeurs à revoir ou à voir, à découvrir, parce qu'il est assez méconnu. Tout comme je vais les inviter à voir La mort caresse à minuit de 72 de Luciano Ercoli, avec la belle Nieves Navarro sous son pseudonyme de Suzanne Scott, qui est un mannequin, qui s'appelle Valentina, qui accepte de tester une nouvelle drogue sous l'objectif d'un photographe, d'un journaliste pas très honnête. Et elle fait un mauvais trip durant lequel elle voit une femme qui est violemment tuée par un homme doté d'un gant métallique garni de pointes acérées. Et le lendemain, elle découvre que sa prise de drogue fait la une d'une feuille de chou sans sensationnaliste. Et elle est, mais elle découvre aussi que un meurtre a eu lieu et que ce tueur ganté existe. Et là, c'est un peu panique à bord, mon cher David.
Oui, alors là tu... Oui. Alors écoute, dans les deux dialogues que tu as cités, qui sortent chez Artus, donc, c'est ça.
Oui, c'est tous les deux chez Artus Film, tout à fait.
Voilà, c'est ça. Alors je t'avouerai que, si tu veux, celui qui m'a le plus marqué... Bon, alors L'œil du labyrinthe, tu as vu le résumé et vu la petite chronique que tu viens d'en faire, tu me donnes évidemment envie de le revoir. Moi, je me souviens surtout de la scène, si tu veux, mais c'est au début, me semble-t-il, de Horst Frank, justement, qui est talonné, qui est poursuivi par un tueur dans une espèce de décor décor ultra labyrinthique là, avec plein de mouvements de caméra, etc. Ça, ça m'avait marqué, tu vois. Bon, vachement, ça, ça m'avait effectivement assez marqué. Et puis, mais par contre, bon, entre les deux, c'est vrai que mon cœur balance, si tu veux, largement pour, comment dire, la morte à Careza, à Mezzanotte, hein, la mort caresse à minuit, hein, qui était sorti d'ailleurs chez Arrow Video, je crois, hein, aussi. Et donc, oui, bah alors ne serait-ce que pour, bon, Nieves Navarro, tu vois, hein, Suzanne Scott. Bon, et puis de toute façon, hein, les trois giallo, si tu veux, comment dire, de Luciano Ercoli, hein, photo interdite d'une bourgeoise, et puis la mort avance à talons hauts, je crois, enfin quelque chose comme ça en français. Bon, et donc, la morte à Careza Mezzanotte, c'est des giallo, mais vraiment que j'adore. Tu vois. Alors surtout, je crois que c'est le dernier d'ailleurs, hein, la morte à Careza Mezzanotte, c'est le troisième, me semble-t-il.
Oui, c'est le troisième, c'est un peu le plus fou, j'ai envie de dire.
Voilà, exactement. Et c'est celui qui vraiment, je crois qu'il y a Luciano Rossi dans, il y a Simon Andreu, évidemment, tu vois, Ivano Staccioli aussi, à un moment donné. Moi, je me souviens de lui parce qu'il jouait dans un film de Bruno Mattei, dans la défroque d'un officier SS, enfin bref, dans un Nazi Exploitation de Mattei, ça n'a rien à voir. Mais bref, c'est des souvenirs comme ça qui me reviennent. Et oui, ça c'est vrai. Alors, pour le coup, tu vois, les giallo de Luciano Ercoli, si tu veux, sont des giallo. Surtout le premier est un peu différent. J'aime un peu moins Photo interdite d'une bourgeoise. Mais comment dire, les deux, hein, les deux, comment dire, Death, on va dire, les deux, la morte, tu vois, sont vraiment des giallo assez classiques, en fait, très classiques. Enfin, moi, je les trouve très. Mais ça n'a rien de péjoratif dans ma bouche, hein, évidemment, hein, tu vois. Mais c'est vraiment, si tu veux, c'est presque une essence de giallo, ces films-là, tu vois. Et vraiment, enfin, moi, je sais que c'est des films que j'adore, mais vraiment, quoi, tu vois. Et Simon Andreu, déjà, est un acteur largement, enfin, à mon avis, sous-estimé, tu vois. Bon, c'est vraiment un acteur que j'adore. Je l'adore notamment chez Eloy de la Iglesia, tu vois. Bon, voilà. Suzanne Scott, Nieves Navarro, à chaque fois que je la vois, bon, je suis en transe. Moi, elle me fait penser à ses prestations, notamment chez pour Joe D'Amato, tu vois. Elle jouait dans Black Emmanuel, Emmanuel et les derniers cannibales. Enfin, bref, c'est vraiment. Tu vois, ça, c'est deux giallo, mais que j'adore. Et inutile de dire que, bon, La mort caresse à minuit, ça, je vais me le prendre. Ça, c'est évident.
C'était Culture Prohibée, l'émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.fr. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Poitier, dit La Gorgone. Assisté à la technique du fameux The Last But Not The Least, je veux bien sûr parler de Léo Magnin. Salut les gens, à la prochaine.